avec un non-croyant, ben alors avec les non-croyants, on reprend le dynamisme de la loi naturelle. C'est-à-dire, quel est ton désir? Ton vrai désir, c'est quoi? Et tu déroules. Tu déroules. En fin de compte, son vrai désir, c'est le même que tout le monde. Son vrai désir, c'est un désir de bonheur, un désir de vérité, de relation, de respect et de vie en société, de construction de la société. Tu vois. Donc avec le croyant, on ne va pas lui parler de Dieu. Mais on va développer en lui cette intériorité. Vous voyez, cette intériorité. Et l'aider à écouter l'intériorité de son cœur profond. Voilà. Oui ?
En fait, moi, il y a un truc que je ne comprends pas, c'est que si, en fait, justement, un croyant, si on va le rejoindre dans son intériorité pour l'amener à, je sais pas, à guider sa conscience pour qu'il choisisse le bien dans sa vie, Mais comme c'est la vérité qui nous rendra libres, est-ce que du coup, il y a deux questions en fait, que je me pose, c'est savoir si l'humanité, si la conscience de chaque être humain était vraiment éveillée ou éclairée, on serait plus des chrétiens catholiques, plus que...
Non, c'est-à-dire, il faut...
La doctrine de l'Église catholique, et pourquoi en fait, chez les chrétiens, qui prie le même Dieu, Jésus, on arrive finalement à des vérités différentes. Alors que nos consciences, on les met sous le regard de Dieu et on les laisse se façonner et se former à la croisade de l'Esprit Saint. Pourquoi on en arrive à des vérités différentes?
Alors, donc il y a deux niveaux. Tous les hommes ont la même loi. Ça, c'est une position. Sont construits par une nature commune. Tous les hommes ont une nature commune. Qu'ils soient chrétiens ou non chrétiens. Bon. Donc, simplement, si on en reste là, on va voir que tout le monde a des aspirations communes. A les mêmes aspirations communes. Quelles que soient les religions. Bon. Alors après, chacun est plus ou moins conscient de la profondeur de ses inclinations. Donc ça dépend du cheminement de chacun. Alors, après, les chrétiens, eux, ils croient qu'il y a une loi qui va nourrir cette loi naturelle. Ça s'appelle la loi nouvelle. La loi nouvelle, c'est l'offre de la grâce. Ils vont chercher la grâce pour que la grâce fasse écho dans leur nature profonde. Il va y avoir cette rencontre entre la grâce et leur nature profonde. À ce moment-là, voilà, il y a cette rencontre entre la grâce qui va mettre en évidence le sens ultime de ces aspirations profondes. Et à ce moment-là, il y aura une compréhension proprement chrétienne de nos aspirations, de notre vocation. Alors après, la différence entre les personnes, est-ce qu'on devrait tous arriver aux mêmes conclusions? C'est là où l'enseignement de l'Église vient dire, est catholique celui qui croit ça, ça et ça. Après, c'est à chaque homme de suivre sa conscience. Mais objectivement, si on ne croit pas ça, 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 et si on ne respecte pas ça, ça et ça, on ne peut pas être catholique. Mais l'Église catholique va dire, à chaque homme de suivre sa conscience jusqu'au bout. Liberté de conscience et même liberté religieuse. Voilà, jusqu'au bout. Mais d'un point de vue objectif, est catholique celui qui tac, 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 tac.
Et est-ce que ça veut dire que les catholiques ils trouveront la liberté?
Parce que après,
la vérité nous rendra libre et que seul le catholicisme est vrai.
Alors,
est-ce que les autres hommes.
Alors,
Jésus.
Alors, la position c'est des chrétiens, c'est de dire que dans les Christ, dans l'Église catholique, subsiste la plénitude des moyens du salut. C'est-à-dire les moyens de la plus grande liberté. Dans l'Église catholique subsiste la plénitude de tous les moyens pour accéder au salut. Donc la plénitude de la liberté, tous les moyens sont présent dans le dans l'Église catholique. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas ailleurs. Mais tout ce qu'on cherche pour accomplir notre liberté se trouve dans, dans l'Église catholique. Hein? Donc ça ne veut pas dire que c'est mauvais ailleurs, mais que toutes les... C'est une nouvelle manière de comprendre l'expression souvent difficilement compréhensible de « hors de l'Église, point de salut ». Vous voyez, vous avez déjà entendu cette expression. Bah, si on renverse, si on actualise cette expression aujourd'hui, c'est, il faut dire que dans l'Église, tout salue. Et donc dans l'Église catholique, il y a la plénitude des moyens du salut proposés pour qu'on ait la, qu'on soit le plus vraiment libre. Voilà. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a des gens qui ne font pas un cheminement de liberté en dehors de l'Église.
Pourquoi les consciences, chez par exemple les protestants, je ne sais pas, parce qu'on peut lire des ouvrages magnifiques chez les évangélistes ou quoi.
Oui, oui.
Et qui, pourquoi la conscience, du coup, elle ne conclut pas, elle ne trouve pas ce que. Enfin, voilà, des choses sur l'Eucharistie, la Vierge Marie.
Ah, bah,
pourquoi
ah bah, ça, c'est le cheminement de chacun, hein, je veux dire. C'est le cheminement de chacun, hein. C'est des témoignages de... C'est-à-dire, on est en cheminement. Toute notre vie... Vous avez déjà été dans un temple protestant? Ben, allez-y. Allez-y, formidable. Moi, j'étais à la mosquée, j'étais chez les temples bouddhistes, chez les protestants. Pas pour... je savais que dans l'Église catholique, j'avais tout. Mais je vous assure que c'est très intéressant d'aller écouter. L'autre jour, je suis allé à la mosquée à Toulouse. Je suis allé écouter l'imam. Je me dis, tiens... Je vais aller écouter l'imam de Toulouse. Ben, il dit des choses vachement intéressantes. C'est tout. Il y a des très belles choses dans ce qu'il dit. Pour pas diaboliser, vous voyez, rentrer dans un rapport d'opposition avec les personnes. Mais dans un rapport d'écoute et après de dialogue. Vous voyez, aller dans des groupes de prière de temps en temps, chez les évangélistes. Très intéressant. Ils ont une louange souvent magnifique. Un rapport à la parole toujours premier, intéressant. Après, je pense qu'il manque des choses, mais bon, beaucoup de choses. Mais il y a des très belles choses. Vous voyez, moi j'ai passé un certain temps dans un monastère bouddhiste, à discuter tous les jours avec un lama, pour connaître un petit peu le cœur. Un lama, le moine. Hein, hein? Donc avec un... Bah, c'est très intéressant d'écouter avec un homme qui a donné toute sa vie pour le nirvana et qui cherche le nirvana en faisant le vide. Moi, en tant que chrétien, je ne comprends pas. Donc on a discuté, etc. C'est vachement intéressant de rencontrer des hommes qui sont vraiment engagés dans un chemin de recherche de la vérité. Et c'est des gens qui sont très intéressants à rencontrer. Vous voyez, petit à petit, sur notre cheminement, il ne faut pas se dire... l'église citadelle, je me protège dans ma citadelle, et puis on va essayer de repousser les agressions du monde. Non, l'église, elle est un germe dans le monde, et elle s'ouvre à toute l'expression de la vérité telle qu'elle est manifestée dans l'histoire d'aujourd'hui. Vous savez, il y a 15 jours, j'étais à Rome. Donc je suis allé rencontrer différents dicastères, c'est-à-dire les cardinaux qui s'occupent des grands thèmes de l'Église, dialogue interreligieux, l'éducation, la foi. Donc on était avec un groupe de professeurs. Voilà. Et ben, dans le dicastère pour l'unité des chrétiens, qui est d'ailleurs l'ancien archevêque de Bâle, Monseigneur Cor, c'est ça, Cor. Voilà. Et donc un homme vraiment d'une très grande gentillesse, etc. Mais il nous partageait les grandes questions qu'actuellement il y a entre catholiques, orthodoxes, protestants, le problème avec les évangélistes, hein, un gros problème, etc. etc. Voilà, partager que le dialogue se faisait plus ou moins facilement avec toutes ces expressions de la foi chrétienne. Intéressant. Après, on a rencontré le cardinal Torrent, qui s'occupe du dialogue interreligieux avec le monde entier, et particulièrement avec l'islam. Il nous disait, voilà, quels sont les... La qualité du dialogue avec l'islam et qu'est-ce qui n'est pas voilà, quels sont les obstacles au dialogue, etc. Quelles sont les vraies questions. le problème de l'islam, c'est, on le voit actuellement dans le printemps arabe, si on peut parler du printemps parce que ça s'est passé en hiver, c'est l'aspiration à la démocratie. Mais derrière la disparition de la démocratie, quelles sont les deux conditions qui vont porter l'avènement d'une démocratie? C'est la liberté de conscience, liberté d'expression, et ultimement, la liberté religieuse. Et donc l'islam va petit à petit être confronté à ces questions fondamentales du point de vue sociétal. Et derrière, c'est des questions anthropologiques très profondes. Entre guillemets, c'est l'avènement d'une certaine laïcité dans le monde islamique. Jusqu'où? Les Turcs ont déjà bien ouvert la porte depuis un siècle, les Atatürk, mais non, c'est l'Afrique du Nord. Donc démocratie, liberté de conscience, liberté de religion, toutes les libertés publiques, droit de grève, etc. En fin de compte, respect de la personne qui ne peut pas être absorbée par une loi coranique. Etc. Donc ouais, jusqu'où va ce dialogue? Voilà. Et c'est très intéressant de discuter avec des gens qui sont en dialogue avec toutes les religions, etc., etc. Donc l'invitation, vous voyez, c'est que petit à petit, dans notre cheminement, on doit être capable de dialoguer avec... de n'avoir peur de dialoguer avec personne. Voilà. Avec des athées ou avec des gens qui sont d'une autre religion.
J'ai une dernière question, ça vient d'un point que vous en parlez, mais conscience sanctuaire de Dieu, et du coup, moi je suis. Ouais, ça me parle, je suis d'accord avec ça, mais justement, pourquoi, par exemple, un bouddhiste qui va faire son chemin, qui va donner sa vie pour devenir banal, qui sera pas sur les gens, voilà, qui l'éteint et tout, et sa conscience. Il doit être très en paix, j'imagine, avec sa conscience, puisqu'il est sûr que c'est le bon là qui doit être. Et voilà, se trouver ce vide, je sais pas ce qu'il cherche vraiment, c'est bouddhiste, mais. Et du coup, vu que c'est le sanctuaire de Dieu, vu que la conscience est le sanctuaire de Dieu, comment ça se fait que. Et il entend la conscience en paix en cheminant, moi, ça me, je me dis qu'il est complètement à l'envers du bon sens, ce gars. Et du coup, pourquoi Dieu qui l'a envie, enfin, ne vient pas lui dire alors qu'il est en train d'investir toute sa vie et sa conscience dans quelque chose qui serait absolument faux? Pourquoi il n'y a pas justement un truc qui bug à ce moment-là?
Alors ça ne veut pas dire que dans son cheminement, il ne découvre pas des valeurs fondamentales de l'existence. Il va découvrir... Alors, on prend le bouddhisme. Le bouddhisme, c'est quoi? C'est la recherche de la vacuité, c'est-à-dire de l'absence, par la recherche du vide, de l'absence de souffrance qui est causée par le désir. Donc qu'est-ce qu'on fait? On élimine le désir à sa racine, alors qu'on a vu que chez nous, c'est exactement l'inverse. Tout part du désir de relation. Dans le bouddhisme, on enlève le désir, et par différents exercices, on va essayer de faire que mon être soit un être de non-désir, pour ne pas souffrir et entrer dans une certaine... expérience du vide, donc de la non-souffrance. Bon. Mais ça implique, en tout cas, une méditation absolument incroyable. Ils ont une connaissance d'eux-mêmes absolument incroyable, mais selon une anthropologie différente, une vision de l'homme différente. Donc il y a des très belles choses, mais je ne pense pas que c'est ça qui va porter à son accomplissement la liberté de l'homme. Mais il y a des valeurs qui sont, en tout cas en termes de social, il y a des valeurs très claires de non-violence, de paix, d'écoute, de respect, de tolérance. Il y a des grandes valeurs. Mais ce n'est pas ça qui va porter à son accomplissement le désir de la liberté. On croit, catholique, que dans l'Église catholique subsiste la plénitude des moyens du salut. Donc de l'émergence la plus grande. Ça ne veut pas dire que dans les autres religions, il n'y a pas des prémices du verbe, un travail de l'esprit qui, à travers des figures, vient préparer le terrain d'une révélation plus ou moins claire du Christ. Vous voyez, le responsable de l'unité des chrétiens, il revenait d'Inde. Vous savez, en Inde, il y a une expansion du christianisme qui est difficile. Mais, vous savez, un tiers, un quart, un cinquième des jésuites au monde sont indiens maintenant. Et donc, vous voyez, l'épicentre de certains grands ordres, chez les carmes, c'est la même chose, sont maintenant en Asie, en termes de vocation. Et donc, la question, c'est de savoir comment il se représente Jésus. C'est-à-dire, comment est Jésus ? Qui c'est Jésus ? Qui c'est Jésus pour quelqu'un qui a grandi dans une culture hindouiste ? Et bien, dit, on a des problèmes de formulation actuellement. Donc, la question de la représentation du Christ selon des cultures différentes est encore en train d'être en recherche. On ne peut pas complètement appliquer à des cultures qui sont complètement en dehors du judéo-christianisme et de l'influence hellénistique dans laquelle on est grandi, bah, appliquer les mêmes représentations christiques. Voilà. Il va falloir travailler une christologie africaine, une christologie asiatique. Et que ça, c'est des chantiers à venir. Pour respecter la culture par rapport à la représentation de la foi. Donc vous voyez, on arrive à une tension, qui est la tension entre culture et culte. Culture et culte. L'expression du culte, de la foi, s'exprime toujours dans une culture. Et il y a des gens qui ont plus ou moins la même culture que nous. Et donc ils vont faire un chemin plus ou moins différent.